Merci d'écouter France Culture, il est midi. Bonjour à tous et bienvenue à La Grande Table, une émission réalisée par Philippe Baudouin, préparée avec Raphaël Bourgois, Jeanne Aléos, Clémence Marie, Boris Pinault. La Grande Table, c'est jusqu'à 13h30, deux parties qui entremêlent la culture et les idées. Et au milieu, le journal de 12h30, présenté par Antoine Mercier.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les enjeux du référendum de dimanche en Grèce se précisent. Le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, assure qu'il ne sera plus ministre des Finances de la Grèce si le oui l'emporte. Pour l'instant, c'est toujours le non qui est majoritaire dans l'opinion, selon les sondages. Le président du Modem, François Bayrou, estime qu'un non signifierait l'enclenchement de la sortie de la Grèce de l'euro et peut-être même de l'Union européenne. On revient sur ce dossier naturellement tout à l'heure. Au lendemain d'une vague d'attentats sans précédent qui a fait hier des dizaines de morts, dont de nombreux militaires, l'Égypte se dit ce matin déterminée à éradiquer le groupe État islamique dans la péninsule. C'est Éric Biégala qui nous en parlera. Le rapporteur public du tribunal administratif de Grenoble, dont l'avis est généralement suivi, demande l'annulation de l'un des arrêtés préfectoraux qui était indispensable au projet controversé de village de vacances Center Park, qui doit voir le jour sur 200 hectares à Roibon dans l'Isère. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, qui demande que soient sauvés les guignols de l'Info, l'émission satirique de Canal+, diffusée depuis 88, serait menacée de disparition à la rentrée prochaine. Antoine Maret nous en dira un peu plus tout à l'heure. L'invité du journal, Axel Poniatowski, député Les Républicains du Val-d'Oise. Voilà, c'est à vous Caroline pour la première partie de la Grande Table.
Et pour cette première partie, nous sommes très heureux et très honorés de recevoir un cinéaste parmi les plus originaux à qui l'on doit des films importants comme Meurtre dans un jardin anglais, Le ventre de l'architecte, Drowning by Numbers, Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, ou plus récemment, La ronde de nuit, Rembrandt, J'accuse et Goltzius et la compagnie du Pélican. À 73 ans, il réalise son 17e long métrage qui sera en salle mercredi prochain. Un drôle de film, comme toujours, baroque, maniériste, on verra cela avec lui, sur les traces de son héros de cinéma, le russe Sergei Eisenstein, au Mexique. Greenaway.
Bonjour.
Et bienvenue à la Grande Table. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la sortie de votre film Que Viva Eisenstein, un film qui sortira le 8 juillet prochain. Que Viva Eisenstein était présenté au Festival de Berlin en compétition. C'est un titre clin d'œil à un film d'Eisenstein qui fut tourné, qui espérait sortir et puis finalement qui n'a jamais été terminé, qui aurait dû s'appeler Que Viva Mexico. C'est donc un film clin d'œil, c'est un film hommage également à ce cinéaste dont vous dites, Peter Greenaway, que cela fut votre premier héros de cinéma.
Je pense peut-être pas tout à fait le premier, mais je pense que mon premier héros de cinéma était probablement français. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais c'était en tout cas l'un des premiers. Je pense qu'on a eu maintenant 125 ans de cinéma, de 25 à 2015, donc. Mais je pense qu'il y a eu des centaines de films, mais il y a comparativement assez peu d'innovateurs, assez peu de visionnaires en matière de cinéma. Et pour moi, Sergei Eisenstein, ce réalisateur soviétique qui a travaillé principalement dans les années 20, serait en haut de cette liste.
Trois films très importants avant le Mexique, plusieurs après le Mexique. Les films d'avant, c'est La Grève, c'est Le Cuirassé Potemkin, c'est Octobre. Et puis les derniers, c'est Alexandre Nevsky, c'est Ivan le Terrible, c'est La Conjuration des Boyards. Peter Greenaway, le fait qu'il soit allé au Mexique en 1931 a été un véritable bouleversement pour son cinéma. De quel ordre?
J'ai toujours pensé que Eisenstein était très différent de tous les autres cinéastes du monde. Les trois premiers films qu'il a faits, il les a faits très jeunes, il n'avait que 25 ans quand il a fait La Grève. Et ces trois films parlaient en fait de grandes idées, parlaient de la propagande, parlaient de mouvements, de groupes bien évidemment associés aux premières années de la Révolution soviétique. Et puis après, on revient plus vers quelque chose qui s'intéresse aux individus, aux liens émotionnels qu'ils ont les uns avec les autres. Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Pourquoi est-ce que les trois derniers sont différents des trois premiers? On va dire que ma vision, ce qui n'était pas très original, c'est que sans doute ces trois années qu'il a passées en dehors de la Russie, de 29 à 31, ont été pour lui une manière de s'ouvrir. Et je pense que c'était effectivement une espèce d'axiome, une espèce de cliché. On est différent quand on est à l'extérieur de notre pays. On peut ouvrir ou laisser la voie ouverte à nos fantaisies sans avoir peur que nos parents soient sur notre dos, d'une certaine manière. Et donc, Eisenstein a trouvé des grands changements sur la matière, comment la dialectique était différente. Il n'y avait plus Staline qui était derrière son dos. Le poids de l'État soviétique n'était plus là. Et c'était effectivement toute cette vigueur de l'avant-garde soviétique avec des gens, avec des contemporains d'Eisenstein, Kovdovchenko, Vertov, des gens comme ça, ou encore Mayakovsky ou Malevitch. Et je crois qu'il y avait une manière pour lui de respirer plus librement à l'étranger et aussi de vivre sa sexualité. Je crois qu'il avait toujours supposé que les femmes ne pourraient pas l'aimer vraiment. Il avait toujours été insatisfait de son corps. Il se voyait comme un clown. Il portait des vêtements de clown. Il avait cette espèce de portait ses pantalons à carreaux, il portait ces espèces de plaids écossais aussi imprimés. Hein. Mais je crois que on trouve souvent que les grands timides essayent toujours de se cacher hein, en faisant des blagues et en étant quelqu'un de très apprécié. Et je pense que à l'étranger, esthétiquement, émotionnellement et sexuellement, il a découvert son homosexualité. Ça a été une situation qui lui a ouvert vraiment les yeux et il est devenu plus ouvert à une émotion personnelle vis-à-vis du monde. En tout cas, je pense que c'est ce qui est d'une certaine manière la toile de fond de ce nouveau film qui va sortir, voilà, qui s'appelle Que Viva Eisenstein.
Sex and death. The two non-negotiables, Eros and Thanatos. We are never aware of our own conception. Can we really be a witness to our own death?
You have introduced yourself to death in Mexico. Indeed, you seem to me to have introduced yourself to death in Mexico. Perhaps now you need to introduce yourself to sex in Mexico.
Well, perhaps now I need to introduce myself to sex in the world. Perhaps Canedo, you could introduce me to sex in Mexico and the world.
Voilà un échange entre Sergei Eisenstein, joué par Elmer Bach, et Palomino Canedo, joué par Luis Alberti, dans votre film Peter Greenaway. Cet échange sur le sexe et la mort, c'est le cœur de votre film. Vous avez filmé ce qu'il a découvert là-bas, à Eisenstein, le sexe, l'homosexualité comme une révélation, peut-être l'histoire d'un épanouissement à la sexualité, disiez-vous tout à l'heure, mais aussi la confrontation entre sa culture russe, soviétique, et la culture mexicaine. Le sexe et la mort, c'est le cœur de votre film à vous?
Well, the original English title of the film is not.
Le titre original en anglais n'est pas le titre anglais. Le titre original, c'est Eisenstein in Guanajuato. Je voulais montrer comme ça ce clash entre deux sociétés esthétiques tellement différentes, la Russie soviétique, même si Eisenstein est un mot russe, hein, Eisenstein est vu comme un réalisateur russe, et donc Guanajuato qui représente donc la société mexicaine. Je ne sais pas combien de personnes sont allées au Mexique, mais en tout cas, on sait tous que les Mexicains ont une familiarité particulière avec la mort. Hein. Dimanche après-midi, ils emmènent la grand-mère et les enfants au cimetière, ils s'assoient, ils déjeunent. Et donc, il y a un espèce de sens de la continuité comme ça dans les familles. Eisenstein était complètement fasciné par cela et il montre dans le film une manière russe de penser la mort, hein, qui est un peu sordide. Et je pense qu'effectivement, nous, Européens, nous essayons de camoufler en fait sous la table cette idée du mort. D'une certaine manière, nous, Européens, avons peur de la mort. Je ne veux pas pousser trop loin l'opposé, mais en tout cas, les Mexicains semblent être beaucoup plus à l'aise. Et je pense que c'est quelque chose qui a aussi à voir avec ce que je pense. Vraiment, il y a seulement deux grands sujets. Il y a d'une part le sexe, de l'autre côté la mort. De quoi d'autre pourrions-nous parler? Voilà, je ne sais pas si les gens vont partager ce que je viens de dire, mais en tout cas, je pense que c'est vrai aussi ce que je viens de dire pour les autres millions d'habitants qui sont sur Terre, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est sur Terre parce que deux personnes ont baisé.
Est-ce pour cela, Peter Gunaway, que vous avez mis la scène explicite de sexe entre les deux hommes en plein milieu de votre film ?
Alors, je pense que notre sexualité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la sexualité est très très importante pour la manière dont nous organisons notre vie. Hein. L'art parle du sexe et de la mort, même si vous êtes une nonne ou un tueur en série. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas discutable, en fait. Hein. Le sexe et la mort sont extrêmement importants et je pense que notre première parentèle, notre première expérience sexuelle reste en nous. C'est quelque chose qui devient un espèce de palimpseste. C'est quelque chose qui est un point focal à partir duquel on veut organiser nos vies. On ne parle pas de l'amour, on ne parle pas de la naissance, en fait. L'amour a des différemment vues partout dans le monde, hein. Mais il y a des gens qui disent que on ne peut tomber amoureux que deux fois et demi. Je ne suis pas très sûre de ce que ce demi est. Hein, il y en a certains qui disent trois fois. Mais bon, en tout cas, je pense que l'acte sexuel qui est à la source de notre vie n'est pas discutable, alors que l'idée de l'amour l'est tout à fait. Mais je pense qu'il y a une manière, effectivement, dont on va rentrer dans ces idées sérieuses qui va avoir un impact sur toute notre vie. Et je pense que la sexualité peut créer, quand elle n'est pas épanouie, une grande anxiété, un véritable inconfort. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, hein, tout ça tombe. Toutes ces superstitions, on a le christianisme qui s'affaiblit, il y a une espèce de fin de superstition dans les organisations. Et je suis très très surpris de voir à quel point tout évolue très vite. Hein. En Amérique, par exemple, hein. Voilà, cette idée de mariage de personnes du même sexe, c'est une grande question. Et par exemple, ce qui vient de se passer en Irlande, hein, qui pendant des années a été contre l'avortement, et l'Irlande vient soudainement à une grande majorité d'accepter le mariage gay. Hein. Le Vatican, qui a toujours eu effectivement une position tellement conservatrice, aujourd'hui commence à s'ouvrir. Donc je pense qu'il y a absolument aucun intérêt si vous faites des films qui parlent d'autrefois ou des films qui sont historiques si vous ne parlez pas en même temps d'aujourd'hui. Donc, ce film parle autant des années 50 que de l'Égypte. Et on sait, par exemple, qu'aujourd'hui, en Russie, il y a une politique d'État qui n'a pas nécessairement à voir avec ce que pensent les gens de la rue, mais il y a en Russie une véritable politique de l'homophobie. Il y a une véritable persécution de tout ce qui est homosexuel. J'espère que ce n'est que quelque chose de temporaire et que finalement la Russie se réveillera et viendra rejoindre le monde moderne. Mais je crois qu'effectivement, à la fin des années 20 et à la période d'Eisenstein, l'idée de sodomie était effectivement répréhensible, hein, et pas seulement quelque chose qui pouvait littéralement vous faire empoisonner, mais c'était pas autorisé.
Quel est le rapport officiel de la Russie aujourd'hui à l'homosexualité d'Eisenstein? Est-ce qu'elle est reconnue? Est-ce qu'elle est admise, Peter Greenaway?
Well, I think, as you can imagine, I'm in great trouble.
Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai de gros problèmes en Russie. Pour deux raisons. Je pense qu'on vient de parler de l'une d'elles déjà. Il y a cette politique d'État pour l'homophobie, dont j'espère qu'elle n'est que temporaire, et j'espère que donc la communication et une meilleure éducation fera disparaître cette chose-là. Mais comme vous l'avez dit, le film était en compétition donc à la Berlinale en février, et j'ai eu des lettres qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres et qui avaient à voir avec le fait que ce grand réalisateur Eisenstein est un trésor national et d'une certaine manière, il faut révérer cet homme. Hein. Et évidemment, on a fait une démonstration avec le film que Eisenstein est un être humain et qu'il a, en tant que tel, tous les caractères de l'être humain. C'est-à-dire, il chie, il pisse, il jure, il est misogyne. Et c'est également un brillant orateur, c'est quelqu'un qui est très drôle, c'est quelqu'un qui est très aimable, c'est quelqu'un qui est sardonique sur, effectivement, la manière de vivre occidentale, mais aussi soviétique. Il essaye d'être aussi drôle que possible. Et je pense que les gens ont aimé le film. Je suis très heureux de le dire, en général, pas mal de gens ont aimé le film. Mais la manière dont nous montrons Eisenstein est quelqu'un qu'on reconnaît comme être humain. Et d'une certaine manière, c'est effectivement quelque chose qui montre bien à quel point c'était un incroyable intellectuel. Il était peut-être autodidacte, mais il avait une compréhension absolument incroyable du cinéma et du monde. Donc on donne dans ce film un portrait très positif d'Eisenstein, mais également un portrait très humain.
Oh, we met James Joyce, who sat through Battlefield Potemkin in his dark blind glasses. I imagine he did not see a thing. We met Abel Gance and Buñuel and Al Jolson, the blacked-up singing son of a Russian rabbi.
This one?
Yeah. We saw Dalí's Le Chien d'Andalou and Dreyer's Joan of Arc. I went to Holland, where a crowd of reporters met me at Rotterdam Airport. They were all very excited. They had come expecting to meet Einstein.
Ich habe von Sternberg in Babelsberg getroffen.
And he was shooting the Blue Angel with.
On l'entend là énumérer les personnalités artistiques du monde de l'Europe et des États-Unis qu'il a rencontrées. Léger, Cocteau, Marinetti, James Joyce, Abel Gance, Buñuel, le chien andalou de Dali, dit-il. Et puis Einstein, Peter Greenaway, c'est aussi un peu vous. C'est là qu'on vous retrouve dans ce portrait que vous faites de Eisenstein. C'est vous dans la mesure où c'est aussi effectivement quelqu'un de formidablement cultivé, de formidablement érudit et qui puise aux autres arts, la musique, la sculpture, la peinture, le cinéma. Votre film est constitué de sources documentaires fabuleuses, de photographies, de toiles, de sculptures. Vous séparez, parce que comme si l'écran n'était pas assez grand pour vous, vous le séparez en trois dans cette utilisation du split screen que vous faites. Vous allez bien sûr montrer des images d'archives, des films d'Eisenstein, mais pas seulement, c'est foisonnant. Cette formidable culture et cette formidable utilisation que vous faites des autres arts est sans doute l'une des caractéristiques de votre patte. Est-ce que c'était aussi, Peter Greenaway, pour montrer dans la superposition des images et des arts qu'aujourd'hui on est face à un flux d'images considérable? Est-ce que c'était aussi pour faire écho à ce flux d'images numérique, mais pas seulement numérique? Notre passé est fait d'images, notre présent est fait d'images. Pour quelle raison, au fond, avez-vous choisi cette façon de tourner?
Well, I think I got to be careful of léger majesté. I would hate to imagine.
Alors, je veux pas du tout me comparer à Eisenstein. Il faut que je sois un peu modeste. J'ai toujours été intéressée par les outsiders, les gens, et je crois que c'est toujours obligatoire pour un artiste d'aller là où il est dangereux d'aller. Le public général utilise généralement les acteurs et les artistes pour aller en dehors de leur zone de confort. Hein. Et je crois que si on va en arrière et qu'on regarde la peinture française a toujours, d'une certaine manière, profondément obsédé le public. Hein. Donc je pense que j'ai essayé de donner le sentiment général qu'un cinéaste est toujours empli des images des différents films. On dit qu'un Anglais ne peut pas ouvrir la bouche sans citer Shakespeare, hein, parce que je ne suis pas vraiment sûre qu'on puisse le faire. Je ne crois pas non plus, par exemple, que les Français puissent citer Molière. Mais d'une certaine manière, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait a déjà été fait avant. Hein, et d'une certaine manière, je crois qu'il faut reconnaître, bien sûr, toutes ces expériences hein, qui nous ont été données, qui ont été vécues avant. Et Eisenstein, il était extrêmement cultivé, il s'intéressait à des sujets très personnels. Il était, par exemple, fasciné par l'hiéroglyphe japonais. Hein. Et si on réfléchit à la théorie du montage, il y avait aussi le théâtre qui intéressait énormément Eisenstein. C'est là qu'il avait commencé. Il connaissait très bien la peinture. C'est aussi l'un de mes premiers amours, la peinture. Et une fois, on m'a demandé, Monsieur Greenaway, pourquoi avez-vous commencé votre carrière comme peintre et pourquoi maintenant faites-vous du cinéma? Et j'ai probablement donné la réponse qui disait que, voilà, j'étais très déçue que la peinture n'ait pas de bande-son.
Eisenstein will die.
Eisenstein mourra.
Like Leonardo.
Comme Léonard de Vinci.
I'm not so sure.
Je ne suis pas certain qu'on se souviendra des cinéastes.
Ya nos echamos una lista de grandes muertos.
On a fait la liste des personnalités mortes.
Aren't you surprised
ça ne t'étonne pas qu'on passe tant de temps à faire mourir les gens au cinéma?
All actors, sooner or later, and sooner rather than later.
Tous les acteurs, tôt ou tard, souvent plus tôt que tard, au théâtre ou au cinéma, doivent baiser ou mourir.
Hamlet, Othello, Macbeth, Juliette, Madame Butterfly, Joan of Arc, Evgeny Onegin, Cleopatra, Julius Caesar, Savonarola, Helen of Troy, Ivan the Terrible.
We give you license to show.
On vous autorise à montrer des gens baiser et mourir, mais on sait que c'est factice.
And you know they are not.
Vous le savez aussi.
And we know that you know that we know they are not.
Et on sait que vous savez qu'on le sait aussi.
It's all to prove we are alive twice over. First,
tout cela prouve qu'on est doublement vivant. D'abord, c'est un fait. Ensuite, c'est un défi lancé à la mort elle-même.
Peter Greenaway, votre film est aussi une réflexion sur le cinéma. On vous entend l'explicité, on l'entend et on le voit dans ce film qui viva Eisenstein. Dans cet extrait qu'on vient d'entendre, à un moment, donc, Eisenstein dit de lui-même, Eisenstein mourra, comme Léonard de Vinci. Je ne suis pas certain qu'on se souviendra des cinéastes. Est-ce que vous pourriez dire ça?
Alors, j'ai écrit ce texte, hein, donc je pense qu'il faut que je continue à affirmer la même chose. Je pense qu'il y a six personnes, il y a la musique, la littérature, la danse, l'architecture, la danse, la musique, c'était avec les six muses. Ça a été créé avant l'Antiquité grecque et on savait en quoi constituait la création. Et techniquement, ces arts étaient assez faciles. Hein. Par exemple, je peux faire du théâtre en me mettant dans un coin et me mettre à pleurer. Je peux faire de la musique en me mettant dans un coin et en chantant. Je peux me mettre à peindre sur un petit coin de table. Hein. Mais le cinéma, c'est très, très compliqué à faire. Ça demande beaucoup de gens, ça demande souvent beaucoup d'argent. C'est possible de faire des très bons films sans argent, mais généralement ça demande beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de matériel, hein, des caméras, de la lumière. Et je sais que donc, effectivement, hein, si vous enlevez la prise, ça veut dire que il y a plus de cinéma. Ça rend donc le cinéma extrêmement fragile. Hein. Et ça veut dire que d'une certaine manière, il est très rapidement réductible à rien. Et ça nous donne aussi une manière de le voir différemment. On a eu quoi, 30 années de cinéma muet, mais qui regarde encore du cinéma muet? Il y a eu Keaton, il y a eu Chaplin, il y a peut-être quelques universitaires qui regardent encore le cinéma muet, mais d'une certaine manière, le public en général n'est plus intéressé par le cinéma muet. Et je pense que, effectivement, comme le cinéma muet a disparu, le cinéma parlant disparaîtra aussi. Et je pense que mes arrière-arrière-petits-enfants diront un jour, le cinéma, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Merci beaucoup, Peter Greenaway. Que viva Eisenstein, c'est un film qui sort le 8 juillet prochain. Merci à vous, Pascal Fougère, d'avoir assuré l'interprétation simultanée de ces propos. Un hommage à Eisenstein qui est aussi un clin d'œil à Prokofiev dont on entend un extrait du Roméo et Juliette. Roméo et Juliette que votre invité, si je puis le dire comme ça, Thibaut Sardier, a dansé dans sa jeunesse.
Exactement, l'un des grands moments de sa carrière. Et c'est aujourd'hui la dernière pour elle, la dernière à Lyon dans le cadre des Nuits de Fourvière. Une grande dame, elle est née en 1965. Son enfance est marquée à 11 ans par une révélation pour la scène et la danse. Elle devient la plus jeune étoile à 19 ans de l'Opéra de Paris, qu'elle décide pourtant de quitter quelques années plus tard pour plus de liberté. Cette liberté, elle la trouvera au Royal Ballet de Londres où son caractère lui vaut le surnom de Mademoiselle Non. Mademoiselle Non s'appelle en réalité Sylvie Guillem. Cette année, elle a 50 ans. Elle fait donc ses adieux à la scène, préférant tourner la page elle-même plutôt que d'être forcée à le faire. Elle propose un spectacle touchant et délicat intitulé Life in Progress où le bruit du vent et des battements du cœur accompagnent des mouvements à la grâce animale. Mais avant tout cela, quand on s'installe dans le théâtre des Nuits de Fourvière, on découvre le spectacle sur le papier glacé du programme où elle apparaît toute petite, elle a 4 ou 5 ans. Alors quand je l'ai rencontrée, je lui ai demandé si cette petite fille sur la photo aimait déjà la scène et ce qu'il en est aujourd'hui à 50 ans.
Je devais déjà faire un petit peu de gymnastique et ma mère me disait que dès que j'ai su marcher, j'allais sur le tapis de gym et puis je faisais des chorégraphies, je m'amusais, je faisais le clown. Donc oui, envie de jouer, envie de faire une sorte de spectacle, je pense que c'était là, oui. Bon, 50 ans, c'est un âge honorable pour une danseuse, pour s'arrêter. Et j'ai toute l'énergie que je veux encore pour l'instant. Je sais que un jour, je l'aurai pas. Savoir quand, je savais pas. Mais j'avais vécu des projets incroyables dernièrement. Donc je me suis dit, quelque part, ça va être le moment.
Et ce moment, c'est évidemment une fin, comme un merci à une partie de ceux qui ont compté pendant sa carrière. Akram Khan, William Forsythe, Russell Malifant sont au programme de ce Life in Progress. Et pour terminer, un bail de Mats Eck, un titre évidemment de circonstance. Mais est-ce seulement un adieu? Pas vraiment, car Life in Progress propose 3 créations sur les 4 du programme, avec des expériences inédites, comme un duo avec une autre femme. C'est une première pour Sylvie Guillem. Et puis aussi parce que le techné imaginé par Akram Khan, qu'elle danse autour d'un arbre métallique et comme un avant-goût de la suite qu'elle espère consacrer à la défense de l'environnement. Et elle avait évidemment tout cela en tête pendant les répétitions.
Avec Akram, on parle énormément, on échange beaucoup et c'est quelqu'un de très curieux. Et puis c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de protection animale, protection de l'environnement, la nature, etc., on découvre des choses assez incroyables. Donc on en a beaucoup parlé, on a parlé de la technologie, on a parlé des rapports manqués, justement, entre ces équilibres qui nous sont vitaux. Et donc je pense que oui, ça transparaît un petit peu dans la première pièce, oui.
Ce soir à Lyon, c'est donc la toute dernière aux Nuits de Fourvière. Il y aura ensuite une tournée internationale qui passera par Paris au Théâtre des Champs-Élysées à la rentrée, avant de se terminer au Japon, un lieu important de sa vie, de sa carrière, pour une toute dernière à la toute fin de l'année, le 31 décembre. Et puis c'est aujourd'hui la dernière, la toute dernière petite minute. Un grand merci à tous pour cette bouffée d'oxygène quotidienne. Et après ces 326 événements culturels du jour à ne pas manquer, sachez que c'est vous qui, à 12h26, allez précisément me manquer. À bientôt, Caroline.
Merci Thibaut Sardier. Des adieux pour Sylvie Guillet, mais un au revoir pour vous. On pourra vous retrouver dès le mois de juillet, c'est-à-dire peut-être dès la semaine prochaine en duo avec Amélie Perrault, Thibaut Sardier, puisque vous serez à 7h18 dans les matins d'été de Nicolas Martin.
Il va falloir se lever tôt.
Bon été à vous, Thibaut Sardier. Dans un instant, c'est le journal et la suite de La Grande Table.